Priorité Santé, Igor Strauss.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé consacrée à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Fin janvier dernier, Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, les directeurs des plus grands laboratoires pharmaceutiques ainsi que les ministres de la Santé de certains pays africains signaient la déclaration de Londres contre les maladies tropicales négligées. L'objectif, éliminer ou contrôler 10 de ces maladies à leur simple effet d'annonce ou réelle avancée pour les malades. Eh bien, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec nos invités, le docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDi, l'initiative médicaments contre les maladies négligées, le docteur Areski Isri, maître de conférences universitaire, praticien hospitalier en parasitologie mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny, et le docteur Robert Sebag, vice-président accès aux médicaments chez Sanofi Aventis. Docteur Pécoul, vous vouliez intervenir juste avant ce journal et je vous cède la parole évidemment.
Oui, si je peux me permettre, je vais revenir au sens de la déclaration de Londres et je pense qu'on ne va pas régler tous les problèmes politiques avec la déclaration de Londres. Il me paraît avoir deux priorités à mettre sur la table. Une, c'est de mettre en œuvre les stratégies qui existent aujourd'hui pour contrôler ces maladies, donc mettre à disposition des populations les traitements, les moyens de prévention qui existent aujourd'hui. Et le deuxième engagement, c'est de faire vite pour identifier des stratégies de contrôle adaptées, c'est-à-dire des traitements extrêmement simples qu'on peut utiliser au niveau du village, combinés à des tests diagnostiques qui permettent d'identifier quels sont les malades. C'est ça l'enjeu. Donc il faut rester extrêmement concret. Si on reste sur ces objectifs-là, on peut effectivement changer la donne.
Alors, je vous propose de nous intéresser à la filariose lymphatique, hein, plus connue sous le nom d'éléphantiasis. Nous partons tout de suite pour Dano, dans le sud-ouest du Burkina Faso, près de la frontière ivoirienne. C'est une région très pauvre où la filariose lymphatique est très répandue. J'étais là-bas il y a 2 ans et j'étais au CSPS, le centre de santé et de promotion sociale de Dano. Et là, j'ai rencontré Syriac Debele, un monsieur dont le pied est extrêmement abîmé.
À ces temps-là, quand le pied m'a commencé, j'étais allé voir le médecin, mais ce n'était pas ici, c'était à la Côte d'Ivoire. Le pied n'était pas gonflé comme aujourd'hui. Mais à un moment donné, le pied même a pourri totalement. Le pied était pourri jusqu'à toucher os. On m'a transporté, envoyé à l'hôpital de Gawa. J'ai fait 3 mois là-bas. C'est arrivé près de 2 mois comme ça, et puis je ne peux plus marcher même.
Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait à l'hôpital de Gawa alors?
Moi-même, je voulais qu'on coupe le pied totalement. Le médecin n'est pas d'accord avec moi.
Et pourquoi vous voulez couper le pied?
Parce que le pied était pourri. Le salon que j'ai dormi, personne ne peut venir là-bas. On ne peut plus mettre un autre malade. Ça sent trop.
Ça sent quoi? Ça sent mauvais?
Mauvais, ça sent mauvais, très mauvais. Et puis le mouche noir même rentre dedans. On dirait que je suis mort, cadavre. Donc c'est pourquoi moi, je voulais qu'on coupe. Donc le médecin n'est pas d'accord avec moi. Il dit qu'on ne peut pas couper. Et puis on m'a commencé à soigner. Jusqu'à ça, le pied l'a fini, et puis ça devient comme ça.
Et là, aujourd'hui, ça va mieux?
Aujourd'hui, c'est mieux. En tout cas, il n'y a plus de plaies. Mais le pied, il me dérange beaucoup dans mon travail.
Vous faites quoi comme travail?
Moi, je suis un cultivateur, mais ça me gêne. Surtout, si la pluie me tape un peu, ça va commencer le cri. C'est pourquoi moi, je ne sors pas dans la pluie. Je ne sors même pas dans la pluie. Si j'ai vu la pluie commencer à préparer, il faut que je cours à rentrer à la maison.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait la pluie?
Ça me fait mal. Ça garde beaucoup de choses chez moi. Je ne peux plus sortir, aller quelque part. Même avant, je peux pédaler au vélo, même faire jusqu'à Djibougou. Mais aujourd'hui, là, je ne peux plus pédaler au vélo très fort. D'après même ce qui me gêne beaucoup, les gens me crient de moi. Ils se moquent de moi à cause de ça.
Ils vous disent quoi?
On me dit comme je suis gros pied, quoi. Un jour même, si j'allais chercher une fille, il m'a réfugié parce que je suis gros pied. C'est ça qui me gêne dans ma vie. Voilà.
Quand le pied a commencé, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Quand le pied m'a commencé, là, les gens, il y a d'autres qui me disent que... Moi, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a donné cette maladie. Il y a d'autres qui disent que c'est Kayima, maladie de Kayima qui m'a attaqué. Il y a d'autres qui disent que c'est le pied d'éléphant. Les gens me parlent de ça.
Et pourquoi le caïman? Qu'est-ce que le caïman a à voir là-dedans?
Les gens disent que c'est notre coutume. Qu'on ne mange pas caïman. Comme on était jeune, on a tué ça, on mangeait ça.
Vous avez mangé du caïman?
Oui.
Et vous avez pensé que...
C'est ça que tu as envoyé, cette maladie. Même aujourd'hui, j'ai pensé ça. Que c'est caïman qui m'a attrapé.
Mais aujourd'hui, vous savez ce que c'est ou pas?
Je sais que c'est une autre maladie. C'est pourquoi je suis venu pour regarder comment on peut faire traitement de cette maladie pour que ça diminue le cri. C'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui.
Docteur Ariski-Izri, vous voulez réagir à ce témoignage?
Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'assez marquant, effectivement. Ces gens qui ont la complication majeure de la filariose lymphatique, une maladie parasitaire due à un ver qu'on appelle Wuchereria bancrofti, qui est transmis par la piqûre de moustiques, de beaucoup de moustiques d'ailleurs, plusieurs espèces qui transmettent ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les moustiques nous piquent, ils nous transmettent le ver qui va devenir adulte chez nous et qui va aller obstruer des vaisseaux lymphatiques, notamment au niveau des membres inférieurs. Ça va empêcher le retour de la lymphe vers le cœur et on a petit à petit une jambe qui enfle, qui devient énorme. On appelle ça l'éléphantiasis parce que c'est aussi gros qu'un pied d'éléphant. Et c'est la complication majeure. Il peut y avoir également des atteintes génitales, notamment chez
les hydrocèles, les gros testicules.
Les hydrocèles, les gros testicules, avec des images historiques de gens qui les portent dans une brouette pratiquement. Donc ça, c'est assez impressionnant. Beaucoup de gens pensent que cette maladie est un mauvais sort qui l'aurait jeté, ou ont des croyances diverses, comme ce monsieur qui pense que c'est parce qu'il a mangé du caïman. Non, ça n'a rien à voir. C'est simplement une maladie transmise par les moustiques. Voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à traiter à ce stade de complications majeures.
Docteur Robert Sebag.
Mais oui, sur cette maladie, par exemple, on va revenir à Londres. Qu'est-ce qui s'est passé à Londres? C'est qu'il y a eu une promesse, plus qu'une promesse, hein, une sorte de vraiment d'implication de trois acteurs. Sanofi, Eisai, qui est un laboratoire japonais, et la Fondation Gates, qui ont décidé de fournir 120 millions de comprimés de DEC, diéthyl, carbamazine ou notésine, peu importe, parce que cette maladie, on peut la prévenir.
Hein, on ne peut pas la soigner, on peut atténuer la douleur avec le washing, le lavage de la jambe, mais on ne peut pas la soigner. L'éléphantiasis, une fois qu'on l'a, c'est à vie.
Une fois qu'on l'a, alors il y a des opérations chirurgicales, mais c'est un peu trop tard,
oui,
si vous
voulez, la fois prévenir. Notamment.
Alors, il y a une prophylaxie, et ce n'est pas compliqué. C'est deux comprimés par an. Deux comprimés par an et par personne. Donc il faut savoir les distribuer, connaître les zones, si vous voulez, où ce moustique peut transmettre la maladie. Et donc cet accord qui a été signé à Londres entre la Fondation Gates, Eisai et Sanofi, c'est 120 millions de comprimés, ce produit, la diéthylcarbamazine, ce qui va permettre de prévenir 30 millions de personnes susceptibles d'attraper la maladie par an, ce qui va faire 60 millions de personnes en 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret, si vous voulez, qui a été signé à Londres.
Alors, avant de céder la parole, allez-y.
Et du même coup, prévenir d'autres maladies du même type, dues à d'autres vers.
Voilà. Docteur Pécoul, vous êtes à l'OMS à Genève, hein, donc on ne voit pas, mais je crois que vous voulez intervenir.
Oui, parce que je pense que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a aujourd'hui des stratégies de prévention, mais qui sont quand même extrêmement compliquées à mettre en œuvre. J'ai travaillé de nombreuses années en Afrique dans des programmes de ce type-là. S'il faut répéter ce type de campagne de prévention 12 à 15 fois, c'est extrêmement compliqué, 12 à 15 fois afin d'atteindre un niveau de contrôle satisfaisant. Donc là aussi, je pense que la composante recherche est extrêmement importante, parce que comme il a été mentionné au début, le ver adulte est extrêmement important. Or aujourd'hui, nous n'avons aucun traitement qui puisse tuer le ver adulte chez les personnes atteintes. Donc là, il nous faut faire des avancées. Donc à Londres, on a discuté avec plusieurs laboratoires, on a signé des accords avec plusieurs laboratoires, notamment ceux qui ont une recherche dans la médecine vétérinaire, parce que c'est dans la médecine vétérinaire que les progrès sont faits souvent dans ce domaine-là, afin de pouvoir tester ces potentiels candidats médicaments sur la filariose lymphatique et essayer d'identifier un macrofilaire qui permettrait de tuer le ver adulte et donc d'avoir une stratégie de prévention beaucoup plus simple à mettre en œuvre.
Docteur Sebag.
Bon, alors comme c'est un débat, bien sûr que je suis d'accord avec Bernard Pécoul sur le problème de la recherche. Mais la recherche et l'innovation, c'est demain. C'est demain. Aujourd'hui, on n'a pas. Alors dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc aujourd'hui, le problème, qu'est-ce qu'on a? Le problème, c'est le problème de l'accès. Alors bien sûr que la santé publique, c'est compliqué. Bien sûr que c'est difficile de mettre en œuvre. Mais ce qui existe aujourd'hui, il faut l'utiliser. Et il faut bien sûr améliorer les choses avec une recherche, mais qui ne viendra que demain. Donc aujourd'hui, quelle est notre réponse?
Eh bien écoutez, vous avez parlé justement de ce problème de l'accès et on va y revenir tout au long de cette émission.
Priorité. Priorité santé sur RFI.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les maladies tropicales négligées avec nos invités, le docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDI, l'initiative médicaments contre les maladies négligées, le docteur Areski Isri, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier en parasitologie et mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny, et le docteur Robert Sebag, vice-président accès aux médicaments chez Sanofi Aventis. Et puis évidemment, si vous souhaitez participer à l'émission, posez une question à nos invités, eh bien vous nous appelez au 33 1 56 40 18 22 ou vous nous écrivez à priorité.santé@rfi.fr. On parlait d'accès aux médicaments parce que le médicament n'est pas tout. La recherche est pour le futur, vous l'avez dit, docteur Sebag. Comment faire pour que ce médicament arrive là il doit arriver? On était tout à l'heure au Burkina Faso, dans une région reculée, en dessous de Dano, vers la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut que les traitements y arrivent, et c'est peut-être ça le problème qui reste à régler, finalement.
Ben, c'est là, si vous voulez, où la notion de partenariat est extrêmement importante. Parce que le médicament seul ne suffit pas. Ça, c'est évident. Si le médicament n'est pas distribué, si on n'explique pas, s'il n'y a pas de campagne d'information, d'éducation et de communication, ce que vous faites à travers cette émission, ça ne marchera pas. Ça veut dire que tous les partenaires, c'est pour ça que les gouvernements, c'est important. Il faut qu'au sein des programmes de santé publique, au sein de la politique de santé des pays, y ait aussi, on facilite cet accès. Alors les laboratoires, ils mettent à disposition les médicaments, mais il faut que ces médicaments arrivent au bout de la piste et ça soit distribué aux gens, d'où l'aide de la société civile, des ONG, qu'elles soient internationales ou des ONG locales, pour arriver à conduire ces politiques de santé publique.
C'est un combat à mener tous ensemble, sinon un acteur n'y arrivera pas, c'est ça?
Bah attendez, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix aujourd'hui. Je veux dire, si tous les partenaires concernés par les problèmes de santé publique ne se donnent pas la main, ne travaillent pas ensemble, on n'y arrivera pas. Et ce sera un échec. Donc c'est tout le monde, c'est une responsabilité qui est une responsabilité collective, des scientifiques, des ONG, des fondations comme DNDI, comme la fondation Gates, des laboratoires pharmaceutiques, mais également des gouvernements qui doivent placer comme priorité dans leur politique de santé la lutte contre ces maladies tropicales négligées.
Alors nos auditeurs sont nombreux à nous écrire à priorité.santé@rfi.fr. Rachid à Bukavu en République démocratique du Congo nous écrit qu'il souffre de filario, justement, qu'il a pris de l'ivermectine en vain, les prurites, les démangeaisons après les bains continuent, que puis-je faire? Docteur Areski Isri, qu'est-ce que l'on peut répondre à Rachid de Bukavu?
L'ivermectine est un excellent médicament qui tue les vers, mais tue les microfilaires, c'est-à-dire les vers qui ne sont pas adultes. Il faut ajouter la diéthylcarbamazine, la notésine, si vous voulez, pour tuer le ver adulte. Mais peut-être que le prurite dont souffre Rachid n'est pas directement lié à la filariose. Ça peut être aussi un prurite, comme on dit, aquagène, si vous voulez, qui est provoqué par l'eau quand on se lave et quand on a la peau qui est sèche, dans certains cas. Le contact avec l'eau, surtout l'eau javelisée, peut provoquer un prurite extrêmement important. Donc il faut absolument qu'il règle son problème essentiellement avec un dermatologue pour voir l'étiologie de son prurite. Mais si on revient un petit peu au débat en ce qui concerne, si vous voulez, ces maladies-là, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la recherche doit s'orienter vers des produits qui agissent en dose unique. C'est le seul moyen d'assurer le succès de toutes les campagnes. Et là, on revient à la stratégie. Il faut aller donner directement les comprimés aux patients. Ça, ce n'est pas évident. Ça nécessite des moyens, on en a parlé. Mais quelle que soit la méthodologie qu'on adopte, il faut quand même rappeler une chose. Le climat est un facteur majeur pour ces maladies tropicales. En Europe, on a pu éliminer beaucoup de maladies dites négligées parce que nous avons un climat qui nous aide énormément. Donc, dans les pays pauvres, il y a la pauvreté, il y a le manque d'éducation, le manque d'information, et à ça s'ajoute le climat.
Alors des produits à dose unique, mais également des produits qui soient faciles à prendre, notamment je pense aux injectables qui sont assez compliqués, notamment avec la maladie du sommeil. Docteur Pécoul, ce problème des injectables, c'est un souci, et c'est ce que vous essayez d'y remédier à travers la recherche justement.
Oui, on en est loin de la dose unique. Aujourd'hui, pour traiter la maladie du sommeil, on a fait des progrès par rapport à l'arsenic que j'ai mentionné auparavant, mais on continue à avoir des perfusions plusieurs fois par jour pendant 7 jours, accompagnées d'un traitement. Pour la leishmaniose, il faut injecter des produits pendant au moins 3 semaines, et c'est souvent 2 produits combinés. Donc on est obligé d'utiliser des structures qui sont relativement sophistiquées, donc des centres de traitement sophistiqués, afin de délivrer les soins aux malades. Donc l'accès dont on parlait avant, il est complètement dépendant de l'amélioration des stratégies. Parce que quand il faut offrir des plateaux techniques compliqués, on limite l'accès à un grand nombre de populations. L'enjeu qu'on a, c'est d'identifier des produits, des traitements qui puissent être utilisés avec un diagnostic extrêmement simple au niveau des villages par des gens dont la formation sera assez limitée. C'est ça l'enjeu, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là où il faut une collaboration étroite entre les chercheurs du secteur public qui ont une vraie expérience, notamment les chercheurs des pays concernés, et les laboratoires pharmaceutiques qui peuvent mettre à notre disposition leur savoir-faire, leurs molécules, afin d'aller plus vite dans cette direction-là.
Docteur Areski-Izri.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ce n'est pas évident d'avoir une dose unique. Mais c'est vrai que plus le traitement est long et plus il est difficile de traiter les gens. Pour la leishmaniose, c'est pour ça que pour la leishmaniose, par exemple, on essaye aujourd'hui de traiter les leishmanioses viscérales avec une perfusion unique d'ambisome. Mais l'ambisome coûte excessivement cher. Donc on ne peut pas le mettre partout. On revient encore aux moyens. Voilà le problème de ces maladies.
Les moyens, toujours les moyens. J'aimerais qu'on prenne une autre question d'un auditeur qui nous a écrit, lui également, à priorité.santé@rfi.fr. C'est Roger N'Djamena au Tchad qui se demande qu'est-ce que la trypanosomiase ? Docteur, docteur Robert Sebag.
Bon. C'est pareil.
Allez, c'est bon. Allez vous compléter.
Alors, vous en avez deux, trypanosomiase. Il y a la trypanosomiase humaine africaine, qui est la maladie du sommeil dont on parlait. Alors, il y a un parasite, ça s'appelle, il y en a deux, Trypanosoma gambiense ou rhodesiense. Et puis, il y a la trypanosomiase américaine, qui est due au parasite Trypanosoma cruzi, qui est la maladie de Chagas. Donc, il y a deux trypanosomiases. Alors, Chagas, il n'y en a pas en Afrique.
Et il y en a en Amérique du Sud et on va y revenir longuement si vous le voulez bien tout à l'heure.
Et il n'y a pas de maladie du sommeil en Amérique latine. Donc voilà cette maladie. Alors c'est une maladie difficile à traiter. Hein. On l'a dit, Bernard Pécoul, c'est des produits extrêmement toxiques. Et il s'agit de produits injectables, ce qui veut dire une logistique extrêmement difficile. Et certains produits, c'est par perfusion. Hein, vous avez 7 à 14 jours. Alors, il y a une amélioration d'un travail fait par DNDi qui permet de traiter cette maladie au lieu de la traiter pendant 14 jours, la traiter en 7 jours. Mais enfin, des perfusions, ça veut dire des petits lits d'hôpitaux, ça veut dire des infirmiers, ça veut dire toute une logistique. Et c'est pour ça que le médicament est une petite part. Hein. Il faut aussi des ressources humaines, il faut des infirmiers, il faut des agents de santé. Et il faudra aussi parler d'un problème qui touche le continent africain, c'est cette fuite des cerveaux et cette fuite des ressources humaines, qui est un vrai, vrai sujet aujourd'hui, parce que sans ressources humaines, sans agents de santé de base, hein, si vous voulez, ben, y aura pas, on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de Londres, par exemple.
Allez, on marque encore une petite pause, et puis on part sur le continent sud-américain, à tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé, suite et fin. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les maladies tropicales négligées avec nos invités. Le docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDi, l'initiative médicaments contre les maladies négligées. Le docteur Areski-Izri, maître de conférences universitaire, praticien hospitalier en parasitologie, mycologie, au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et le docteur Robert Sebag, vice-président accès aux médicaments chez Sanofi Aventis. Alors, on a parlé de ces maladies tropicales négligées en Afrique. Partons en Amérique du Sud où sévit la maladie de Chagas. Et je vais peut-être donner la parole au docteur Pécoul pour nous rappeler ce que c'est que cette maladie de Chagas.
Alors la maladie de Chagas, comme a été dit précédemment, c'est une trypanosomiase aussi, qui est transmise généralement chez les enfants. Donc il y a une première forme qui est la forme aiguë, qui passe parfois inaperçue, donc qui n'est pas traitée souvent. et qui entraîne pour un tiers des patients la rentrée dans une phase chronique qui dure très longtemps et qui apparaît au bout de 20 ans, parfois 25 ans, avec des symptômes de type cardiologique et une mort des patients avec des symptômes cardiaques qui passent souvent inaperçus. C'est-à-dire que très souvent, ils ne sont pas diagnostiqués, Chagas. On observe des gens qui meurent de problèmes cardiaques. On ne sait pas qu'ils ont eu cette maladie.
Parce qu'en fait, c'est une maladie silencieuse, c'est ça.
L'énorme problème de Chagas,
voilà.
C'est l'absence de reconnaissance des malades.
Voilà, une maladie silencieuse qui touche près de 20 millions de personnes, je crois, sur le continent sud-américain. En fait, c'est dû à une punaise qu'on appelle une réduve, c'est ça, la vinchuca en Amérique du Sud, en espagnol. Robert Sebag, vous voulez intervenir?
Maladie également liée au développement. Elle vit souvent dans les toits de chaume, si vous voulez, et c'est la déjection de cette punaise, de cette réduve, triatome pour les scientifiques, qui fait que quand on se gratte sur les déjections de cette réduve, il y a pénétration du parasite. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que quand moi j'étudiais médecine, on me disait la maladie de Chagas, c'est quelques milliers de personnes en Amérique du Sud.
20 millions,
c'est des millions.
Oui, mais aujourd'hui, cette maladie, elle est globalisée. Elle est globalisée par le réchauffement climatique, où on trouve, si vous voulez, la réduve au sud des États-Unis, par exemple, mais surtout par les migrations de population. Comme vous l'a dit Bernard Pécoul, elle est silencieuse pendant des années, mais vous avez toujours le parasite. Il y a des études qui ont été menées en Suisse, en Espagne, en France, sur des immigrants d'Amérique du Sud. Sur des immigrants d'Amérique du Sud, on leur fait un prélèvement et on trouve qu'ils sont positifs à la maladie de Chagas. Et c'est des pourcentages relativement importants.
8 à 10 000, par
voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens ne peuvent pas donner leur sang. Et qu'aujourd'hui, quand vous donnez votre sang, on vous pose la question, si vous êtes immigrant d'Amérique du Sud, de pays endémique de la maladie de Chagas, vous ne pouvez pas donner votre sang. On a trouvé de la maladie de Chagas au Japon. On a trouvé de la maladie de Chagas en Australie.
D'importation.
Je vous l'ai dit, oui, d'importation. Réchauffement climatique, si vous avez le vecteur et si vous avez un patient qui est le réservoir de cette maladie, vous pouvez rentrer dans le servicieux de cette maladie. Alors cette maladie, là, la recherche est importante parce que ce qui existe aujourd'hui marche à peu près sur les formes aiguës. Comme vous l'a dit Bernard Pécoul, les formes aiguës, elles sont souvent, elles peuvent passer inaperçues. C'est une sorte de syndrome grippal. Vous avez quelques signes cutanés, des petits œdèmes, mais ça peut passer inaperçu.
Des petits ganglions au niveau du cou, c'est ça? Ce sont les signes
non,
à reconnaître?
Non, les ganglions, c'est dans la maladie du sommeil, si vous la trypanosomiase africaine. Non, vous avez un œdème au niveau de la paupière, mais souvent rien. Souvent rien, et elle est silencieuse pendant des années, mais... Si vous voulez, très très lentement, il y a des modifications au niveau du cœur, et après c'est irrémédiable, et des modifications également au niveau digestif, et ça peut entraîner la mort. C'est pour ça que là, on a besoin d'un traitement, et on a besoin également d'un diagnostic extrêmement sûr.
Précoce.
Très très précoce de cette maladie.
Docteur Ariski-Isri, allez-y.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, j'en rajouterai pas. Je voudrais juste dire une chose, nous avons parlé de leishmaniose, de maladie du sommeil, de maladie de Chagas. Je voudrais faire un rappel que toutes ces maladies sont transmises par des insectes, par la piqûre d'un insecte, ou comme dans le cas de la maladie de Chagas, par les déjections des réduves. Et que je crois qu'en plus du diagnostic rapide, en plus d'un traitement rapidement efficace, moi je voudrais insister sur la nécessité de la prévention. Et pour moi, la prévention passe par l'information, par l'éducation. Savoir que la maladie du sommeil est transmise par la piqûre de la mouche tsetse aux heures chaudes de la journée, eh bien, il faut éviter les expositions ou alors il faut se prémunir. Savoir que la maladie de Chagas elle est transmise par la piqûre de la punaise la nuit dans les habitations traditionnelles, toits de chaume, etc. Là, on peut traiter ces habitations. Savoir que la leishmaniose est transmise par la piqûre d'un tout petit moucheron, le phlébotum. Là aussi, on peut intervenir au niveau de la prévention. Vous voyez, je voudrais insister sur la prévention.
Mais vous avez bien raison, c'est fondamental.
Pas parlé assez.
Bien sûr. Docteur Pécoul, justement, on parlait de cette déclaration de Londres, mais est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible d'éliminer certaines pathologies, voire de les contrôler, au vu de ce qu'on a dit, justement, notamment en termes de prévention?
Alors, le contrôle, bien entendu, il est souhaitable. Je pense que si on met en œuvre une combinaison de mesures préventives, éducatives, on arrivera à contrôler... Souvent, l'homme joue un rôle clé dans la transmission. Dans la maladie du sommeil, moi, j'ai participé à plusieurs programmes en Afrique. Lorsqu'on a un programme de traitement qui marche bien, on interrompt la transmission. Donc, le traitement fait partie aussi intégrante de la prévention. faut savoir que dans la maladie de Chagas, on n'a pas mentionné un autre facteur de transmission, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Donc la mère qui est infectée, et aujourd'hui il y a beaucoup de mères infectées qui transmettent à leurs enfants, et les jeunes enfants là ont besoin d'une prise en charge compliquée. Donc récemment, la DNDi a mis en place pour la première fois un traitement pédiatrique, un petit comprimé qui peut être pris par le jeune enfant. Donc ça c'est une avancée minime, mais qui permettra de casser ce processus de transmission.
Vous vouliez parler des vaccins, docteur
Aeschi. Oui, tout à fait, parce qu'on a parlé de la stabilité politique, des moyens, du climat, et puis moi je voudrais ajouter quand même le problème d'absence de vaccins. C'est vrai qu'on a pu éliminer quelques maladies ou contrôler quelques maladies bactériennes, virales, parce qu'on a mis au point des vaccins, mais contre ces maladies parasitaires, que ce soit la filariose, les trypanosomoses, les leishmanioses, eh bien on n'a pas de vaccin aujourd'hui, même si les travaux sont assez prometteurs depuis 20 ans ou 30 ans, mais on est toujours au stade des promesses.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Cette émission a été réalisée par Didier Bleu, préparée par F. Freitas. Demain, nous parlerons du plan Alzheimer. Lancé en 2008, il entre dans sa cinquième et dernière année. Nous ferons donc le point sur les avancées concrètes au niveau de l'accompagnement et de la prise en charge des personnes malades et de leurs familles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.